Il est 10h.
Au Capi. Une information, Pascal Massirica.
Bonjour à tous. Un mort à la suite des matchs de foot entre Kinkunku et Sangabalende de Mbujimayi ce mardi après-midi au stade de jeunes de Kataka à Kananga. En cause, la victime a été piétinée par une foule en débandade selon des sources sur place, des sources confirmées par le gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabasubabuka Tulondi. Il faut dire que ce match de foot émaillé de beaucoup d'incidents a été suspendu à 3 reprises parce que la foule lançait des projectiles. Il y a eu ensuite des tirs pour stopper cette violence. Face à ce chaos, la foule a couru dans tous les sens, piétinant ainsi cet homme. Signalons que ce match a eu lieu dans le cadre du championnat de la Ligue de foot Division 1. Au Sud Kivu, fin ce mardi après-midi de l'atelier d'harmonisation sur l'accord entre éleveurs, chefs coutumiers et agriculteurs dans les territoires de Sivi. Cette rencontre qui a commencé lundi dernier réunissait autour d'une même table une quarantaine de participants venus des hauts plateaux. Objectif de rencontre, préparer la prochaine session de transhumance dans ces territoires. C'est l'administrateur du territoire de Sivi en personne qui a modéré cet atelier initié par la table de concertation des organisations intercommunautaires de Minembwe et de Baraka. L'activité a été financée par l'Institut Vie et Paix. À Kilwa, cité située à près de 350 km de Lubumbashi dans les territoires de Pweto, les autorités locales poursuivent l'enquête pour retrouver les personnes qui ont déposé le week-end dernier des pains devant les portes d'une trentaine de maisons du quartier Kiesal. Pris de panique, ces habitants ont tous rassemblé ces pains qu'ils sont allés déposer chez le chef coutumier, indique le chef de poste d'encadrement administratif de Kilwa. Plusieurs sources sur place soupçonnent les hommes du chef Mai Mai Gédéon Kingu. Allégation rejetée en bloc par Victor Mapoué, qui affirme qu'il pourrait s'agir plutôt des pratiques fétichistes qui n'ont rien à voir avec les Mai Mai. Enfin, sachez qu'au Kasaï oriental, les habitants du quartier 10 dans la ville de Mwene-Bitou sont assommés de divertir. Un opérateur économique de la ville leur demande de quitter leur maison, affirmant avoir acheté cet espace en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Près de 100 familles sont concernées et aucune autorité ne s'est encore exprimée clairement à ces sujets précisément. D'autres précisions de Mwene-Bitou avec Ali Boukassa de la radio Tout en Paix.
Nous sommes au quartier 10, à la sortie de la ville vers Mbujimayi. Ces populations sont presque locataires dans leur propre parcelle. Selon quelques habitants interrogés, leur quartier est vendu comme ferme à un opérateur économique de la ville. Ce dernier, depuis le week-end, leur interdit de cueillir noix, avocats, mangues, bref, ils les soumettent à ses propres règles. Pour les commerçants, ce quartier se trouve dans la concession d'Eba.geo. Celle-ci lui appartient. Jamais le papier conséquent d'ici la radio Okapi. Les autorités urbaines concernées le savent toutes, ajoute l'opérateur économique. Du côté de l'hôtel des villes, le maire promet de tout éclairer après sa descente sur le lieu. Mais pour les conservateurs des titres immobiliers, il n'est au courant de rien. Gaston Moulimangabo appelle toutes ces populations frustrées à son bureau. En rappel, ces populations ont environ 20 ans dans ce quartier. Et le samedi, elles ont envahi même la résidence officielle du maire. Voilà du tout. Ali Boukassa Kabandi, Radio Kitante, pour Radio Okapi.
Fin de ce bulletin de nouvelles. Merci d'avoir écouté tout de suite Marie-Chantal Lumba dans Parole aux auditeurs.
J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été pour qui on fait un langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la liste de mes précisions, qu'on peut jouer les fonds par rapport à ça.
Le 27 avril dernier, la liste définitive des 482 députés nationaux, par son arrêt portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 28 novembre 2011. Au terme de cet arrêt, la Cour suprême de justice, qui n'est susceptible d'aucun recours, les mandats de 32 députés nationaux issus des résultats provisoires de la CENI du 26 janvier 2012 sont invalidés. En outre, les mandats des 18 députés nationaux étaient suspendus et la Cour ayant recommandé à la CENI de réorganiser les élections dans les centres locaux de compilation des résultats dans les circonscriptions électorales à problème, notamment à Massissi, dans la province du Nord-Kivu, Bessalé à l'Équateur, Kivu dans le Bandundu, Lomélé et Kolé au Kasaï oriental. Au total, 469 contentieux des conflits électoraux ont été examinés. Que vous inspire cet arrêt de la Cour? Notre invité est le professeur Gaspard Gondabu Nkoy, il est constitutionnaliste. Sylvain Makoundou, Titi Koutou et Pierre Lamy sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba est à la présentation.
C'est le rendez-vous signé de Radio Okapi. Les chemins détournés, les visages sont dépistés, la dépendance reliquée, c'est chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Okapi. Les semaines abonnées à l'IONETO et je vous y attends. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Un nouveau bonjour. La troisième possibilité pour participer à cette émission, c'est de nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net, plutôt à l'adresse Facebook Parole aux auditeurs. Et aujourd'hui, nous parlons de cet arrêt de la Cour suprême de justice. Notre invité est déjà en ligne. Bonjour, professeur.
Bonjour.
L'arrêt de la Cour, nous savons que la Cour suprême de justice en RDC est le sommet du pouvoir judiciaire en RDC et nous savons également que cet arrêt de la Cour n'est susceptible d'aucun recours. Au total, 469 contentieux des conseils électoraux ont été examinés, 32 députés ont été invalidés. 32 ont été validés, 18 députés nationaux ont été suspendus en attendant la réorganisation des élections dans certaines circonscriptions électorales. Vous, en tant que homme de droit, au regard de ces chiffres, qu'est-ce que cela reflète pour vous?
Je vous remercie, madame, d'abord de votre invitation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la Cour suprême de justice, qui jusque-là fait office de Cour constitutionnelle dans notre pays, est la juridiction compétente pour connaître les contentieux électoraux en ce qui concerne les élections présidentielles et les élections législatives. En tant que juridiction suprême, comme vous venez de le dire, ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire que la Cour statue en premier et dernier ressort. Ce qui veut dire que les arrêts qu'elle a rendus dans les différents contentieux qui lui ont été soumis sont désormais définitifs et personne ne peut y revenir. Sauf éventuellement peut-être s'il y a des recours au niveau des instances internationales, etc. Mais sur le plan national, les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors maintenant, d'après les statistiques que vous donnez, il apparaît qu'il y a 32 députés qui ont été invalidés, il y a encore 18 sièges qui restent à pourvoir, tandis que plus ou moins 400 ou quelques ont été confirmés dans leur élection. De tout d'abord, ma réaction, c'est de dire, bon, sur plus de 500 recours qui ont été introduits devant la Cour suprême de justice, si vous avez 32 députés qui sont invalidés, ça veut dire que c'est moins de 10%. Moins de 10% des recours introduits, ceci ne peut pas être considéré comme exceptionnellement positif. Surtout que nous savons que les élections qui ont eu lieu le 28 novembre 2011 ont été sérieusement, je dirais même abondamment critiquées, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et la CENI a même fait l'unanimité contre soi dans l'organisation de ces élections. Au vu de ce climat-là, si on prend ces chiffres-là, moins de 10% des cas d'invalidation, ça ne peut pas être considéré comme un résultat exceptionnellement positif. Mais bon, comme c'est une grande première au pays, il faut quand même saluer cela. Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est moins les statistiques. C'est plutôt les arguments avancés par la Cour pour pouvoir invalider les uns et valider les autres. Je n'ai pas encore tous les arrêts de la Cour suprême en la matière, mais d'après certaines informations que nous recevons par-ci, par-là, vous verrez qu'il y a des réponses qui ont été réservées à chacun des recours, sont des réponses variées. Vous avez une réponse qui est donnée dans tel arrêt, qui est manifestement le contraire d'une autre qui a été donnée dans tel autre arrêt, etc., etc. Ce qui ne garantit pas, à mon humble avis, la cohérence du raisonnement de la Cour dans le traitement de toutes les affaires.
Ce n'est pas le cas par cas, parce que chaque dossier a ses éléments, a ses documents, son argumentation. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à cela?
Oui, chaque dossier est tout à fait particulier, mais le droit qui doit être appliqué est le même. Il doit être appliqué à tous les cas particuliers, mais la règle aujourd'hui, quand vous l'invoquez et quand vous l'interprétez dans tel cas, il faut que cette interprétation puisse prévaloir également dans tous les autres cas. Il ne faudrait par exemple pas dire, par exemple, vous rejetez un certain nombre de recours pour manque de preuves. Hein, parce que la Cour aime beaucoup cet argument-là, il n'y a pas de preuves, on n'a pas fourni les PV de proclamation des résultats, les rapports des témoins, alors que dans d'autres arrêts, la Cour elle-même va rechercher cette preuve dans les plis électoraux qui lui a été transmis. Car vous savez que dans l'organisation de notre système électoral, lorsqu'on ramasse les plis électoraux, on les regroupe en trois catégories. Il y a un premier pli qui est destiné à l'antenne provinciale de la CENI. Le deuxième est destiné à la CENI elle-même, au niveau du bureau national. Et le troisième pli est adressé à la Cour suprême de justice. Précisément pour qu'au moment du contentieux, la Cour ne puisse plus accabler les référents en leur demandant de fournir eux-mêmes des preuves, mais pour qu'elles-mêmes puissent rechercher ces preuves-là dans les plis qui ont été transmis. Car nous sommes ici en matière du contentieux électoral, nous ne sommes pas en matière de droit privé ou de droit pénal où la charge de la preuve incombe à l'accusateur. Ici, c'est un contentieux de droit public. Comme contentieux de droit public, la Cour suprême doit rechercher les preuves, les arguments, elles-mêmes, dans l'intérêt de la légalité, dans l'intérêt de la constitutionnalité. C'est ce genre de disparité qui pose quand même problème au niveau de la cohérence du raisonnement de la Cour.
Oui, professeur, restez avec nous. Nous allons écouter Léon de Béni, Albert de Kisangani. Vous allez revenir pour commenter ces avis de nos auditeurs. Comme vous êtes expert en la matière, vous êtes constitutionnaliste. Je rappelle mon contact, le 081-890-6315. PA@radiocapuconet ou parole aux auditeurs, la page Facebook de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Léon.
Oui, bonjour Marie-Chantal Lumba et bonjour à notre.
Oui, que vous inspire l'arrêt de la Cour suprême de justice?
Oui, c'est pour la question. Moi, je voudrais juste premièrement saluer le courage de la Cour suprême de justice, qui a pu quand même rendre un moindre travail au peuple congolais, puisque le peuple congolais s'attendait à ce que la Cour puisse statuer même au niveau de la tête, donc des élections présidentielles. La Cour nous a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais par rapport à cet arrêt, qui vient d'invalider et de valider les députés, je dis que la Cour ne doit pas s'arrêter au niveau de là. Lorsque la Cour a invalidé certains députés, c'est-à-dire qu'il y a eu des irrégularités. Maintenant, il faut aller encore plus loin pour chercher les auteurs, ou bien les gens qui ont favorisé ces fraudes-là. Cela permettra au peuple congolais de savoir qui était responsable dans l'invalidation ou bien dans la validation d'un tel député, pour que la sanction sociale puisse tomber sur eux. Alors, en bref, je demande à la Cour d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas c'est le début de la tolérance zéro. Il faut aller jusqu'à ramasser les gros poissons qui ont favorisé ces fraudes-là. Et puis, je vous remercie.
Merci, Léon. Surtout, restez branchés sur Radio Okapi avec notre invité parce que votre question est assez pertinente. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires à l'endroit des individus lors des contentieux électoraux? N'oubliez pas à rester branché en FM parce que, bien sûr, à Béni, vous nous suivez sur la 92.0 en FM. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, Mme Chantal.
Nous vous écoutons, Albert.
Oui, merci, Mme Chantal. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'arrêt rendu par la Cour suprême. Pourquoi? La tendance pour aurait pu rendre verdict de tous ces dossiers de députés nommés ou pas, avant même le tracé du bureau provisoire. Juridiquement parlant, c'est la logique des choses. Imaginez-vous, Mme Chantal. Les travaux de députés ont validé, ont participé au vote de l'installation du bureau provisoire et définitif. Ce qui est grave encore, ils ont même touché de toute l'installation et goûté même l'ambiance ainsi régnée au niveau de l'hémicycle. Et c'est ça, on a pris aussi d'engagement, voyant qu'ils vont régler ça plus tard. Aujourd'hui, les voitures ont validé. Pourquoi la famille du cours suprême ne connaît pas les membres du bureau de la CNI qui sont à la base de toutes les zones?
Oui, Albert, en vous écoutant, c'est plus une préoccupation de savoir quelle est la procédure. Est-ce qu'on peut invalider un député au moment où il est déjà, il travaille déjà, il participe déjà dans les travaux? Est-ce qu'il y a un délai? Donc, c'est aussi assez pertinent à votre préoccupation, Albert de Kisangani. Vous aussi, notre invité pourra répondre, comme il connaît bien la matière, il pourra donner une réponse à cette préoccupation. Est-ce qu'il y a des délais qui sont déterminés? Est-ce que une personne, un député qui avait déjà commencé à siéger, est-ce que normalement on ne devrait pas trancher les contentieux électoraux avant même la mise en place du bureau définitif? Voilà autant de préoccupations que vous soulevez en montrant bien sûr votre consternation par rapport à ce que vous avez, ce que vous êtes en train de voir. Merci Albert de Kisangani. Bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, 081 190 63 15, écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Professeur Gonda, vous avez suivi nos deux premiers auditeurs. Ils ont des préoccupations, ils ont aussi posé des questions. Le premier auditeur, Léon de Béni, qui en fait, il voudrait savoir est-ce qu'on peut, il peut y avoir des poursuites judiciaires individuelles lors des contentieux électoraux ou carrément c'est la justice, c'est la procédure, parce qu'il y a eu irrégularité, on a invalidé, mais après l'invalidation du député, est-ce qu'on peut essayer de faire ouvrir un autre dossier pour savoir qui a tort et s'il peut avoir des peines concernant la personne qui a été invalidée ou qui a causé en fait ce tort dans l'organisation des élections?
Merci madame pour la question. D'abord je corrige mon nom, c'est Paul Gaspard Ngondankoy. Paul Gaspard Ngondankoy. Alors concernant la question de notre premier auditeur, je crois que c'est Léon, et il voudrait savoir si après le constat des irrégularités, la Cour peut également poursuivre pénalement les auteurs de ces irrégularités. Je dirais oui. La difficulté ici, c'est que, comme nous avons une Cour suprême de justice qui joue à la fois le rôle de Cour constitutionnelle, de Cour de cassation, de Conseil d'État, tout cela est un peu difficile dans la tête du commun du mortel pour pouvoir distinguer la nature des contentieux. Dans des pays où il existe une Cour constitutionnelle indépendante, une Cour de cassation, un Conseil d'État, la question est plus ou moins facile à résoudre. Alors, concrètement, comment ça peut se passer? La Cour suprême, quand elle siège en matière électorale, elle siège comme juge électoral. Elle se limite au constat, à la recherche et au constat des irrégularités qui ont été commises en matière électorale et prononce les ou la sanction qui sont prévues par la loi. En l'occurrence, soit l'annulation partielle, soit l'annulation totale du scrutin, soit encore la validation des élections quand il n'y a pas de régularité constatée. Alors, quand la Cour a statué de cette manière-là, elle a vidé son office, elle ne peut plus y revenir. Donc, quand la Cour a statué, il n'y a plus rien à faire, elle a fini son travail. Maintenant, s'il y a des irrégularités qui constituent en même temps des infractions pénales, cette fois, puisque la Cour suprême de justice est également Cour de cassation, et juridiction pénale de certaines autorités qui jouissent d'un privilège de juridiction, comme par exemple les députés, dans ce cas-là, il faudrait une autre instance qui doit s'ouvrir pour que les individus qui ont été appréhendés, qui auront été reconnus comme auteurs de ces irrégularités, de ces infractions pénales, puissent être poursuivis. Et là, la Cour ne va pas s'auto-saisir. La Cour va être saisie soit par le parquet général de la République, soit encore par des citoyens qui dénoncent ces infractions-là. Donc, dans le cas d'espèce, je dirais à mon ami Léon que la Cour suprême ne pouvait pas se transformer immédiatement en juridiction pénale pour prononcer des sanctions d'ordre pénal. Il faudrait attendre cette fois-ci qu'il y ait des plaintes introduites soit à l'Office du procureur général de la République, qui instruira les dossiers et qui saisira en bonne et due forme la Cour suprême de justice, soit alors il faut qu'il y ait peut-être des plaintes qui soient déposées directement par des citoyens, des victimes devant la Cour suprême de justice.
Nous savons que quand même le procureur il recherche des infractions, qu'à ce moment-là, lui-même aussi ne peut pas se saisir et ouvrir en fait un dossier par rapport à ce genre d'infractions parce que nous sommes dans la lutte contre l'impunité.
Bien sûr que oui, le procureur général de la République, il est le maître de l'action publique. Il a la mission de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions qui ont été commises sur toutes les parties du territoire national. Il lui appartient, en toute liberté, de pouvoir mettre en mouvement l'action publique et éventuellement poursuivre ces personnes devant la Cour suprême de justice. Mais là, encore une fois, c'est le pouvoir du procureur général de la République qui lui appartient de se défendre.
Donc, deux possibilités. Soit on ouvre un nouveau dossier avec les plaintes des personnes qui se sont blessées, ou c'est le procureur général qui peut se saisir de ce dossier. Voilà la réponse à Léon. Il y a aussi Albert qui s'inquiétait pour lui. Il trouve qu'il y avait un chevauchement, si on peut dire ça comme cela. On a déjà installé un bureau définitif à l'Assemblée nationale et du coup, il y a des invalidés. Il trouve que ce n'est pas assez cohérent. Quelle réponse vous pouvez apporter à Albert de Kisangani?
Oui, notre ami Albert peut avoir raison d'avoir cette inquiétude. Effectivement, il y a un problème. Parce que vous devez savoir que le contentieux électoral dans certains pays, dans l'histoire, a été confié d'abord aux assemblées parlementaires elles-mêmes. C'est-à-dire les députés sont juges de la régularité des élections de leurs collègues. Mais compte tenu de beaucoup d'inconvénients de ce système, notamment parce que souvent les députés ne se montrent pas impartiaux dans le règlement de ce genre de contentieux, la tendance moderne dans l'état de l'état de droit démocratique, c'est de confier ces contentieux à un organe indépendant du pouvoir législatif, en l'occurrence au pouvoir judiciaire. Dans l'autre cas, le contentieux de la régularité des élections législatives, je venais de le dire tout au début, a été confié à la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice est donc la seule juridiction habilitée à connaître de ce contentieux. Et comme vous le savez, les arrêts de la Cour suprême de justice ne sont pas susceptibles de recours, ils sont immédiatement exécutoires et s'imposent à toutes les autorités, y compris les autorités politiques, les autorités administratives, judiciaires et autres. Donc, quand la Cour a rendu son arrêt, le Parlement, le gouvernement, toutes les autorités de la République doivent s'y soumettre. C'est ce qui explique que aujourd'hui, les députés qui sont invalidés ne peuvent plus invoquer une décision de leur propre assemblée qui les a validés pour pouvoir s'opposer à l'arrêt de la Cour suprême de justice. Évidemment, on aurait souhaité que l'arrêt de la Cour suprême de justice intervient avant la validation au niveau de l'Assemblée nationale. Ceci n'est qu'une question de programmation, d'où l'importance, encore une fois, du cycle électoral, du respect du cycle électoral. La séquence des étapes dans l'installation des institutions est une question tellement importante que parfois dans notre pays on néglige. Et voilà, maintenant qu'on a ces conséquences-là, des députés qui ont été validés par l'Assemblée nationale, et qui se trouvent maintenant invalidés par la Cour suprême de justice, tout cela simplement parce que on n'a pas voulu que les choses aillent normalement. La Cour suprême dispose d'un délai de 2 mois pour pouvoir examiner les recours introduits en matière d'élections législatives. on pouvait bien attendre que la Cour puisse terminer tous les arrêts, mais peut-être que souvent la lenteur qu'accuse la Cour dans le traitement de ces contentieux a pu peut-être convaincre les autorités à pouvoir procéder à la validation immédiate des députés en attendant les arrêts de la Cour suprême. Peut-être même que certains ne s'attendaient pas que la Cour allait invalider certains députés. Mais ça, c'est une question de séquence, une question de programmation de la mise en place des institutions. Voilà que maintenant, nous avons ce problème-là parce qu'on a voulu mettre un peu la charrue devant le bœuf. On valide d'abord et par la suite, la Cour statue. Mais ça ne pouvait pas être autrement si les deux chambres parlementaires ont comme maintenant l'obligation, dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, de se réunir. Et c'est un délai constitutionnel encore. Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, la Constitution dit que les deux chambres, en l'occurrence la chambre basse, doit se réunir, un, pour valider le mandat, deux, pour constituer le bureau définitif, trois, pour l'adoption du règlement intérieur. Encore une fois, c'est une question de d'harmonisation des délais dans la mise en place des institutions.
Donc, professeur, restez avec nous. Nous allons écouter une deuxième série d'auditeurs. Ils vont donner leur point de vue au regard de cet arrêt de la Cour. Il y a déjà Finan qui se trouve à Kindu et Ernest Amatadi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Finan.
Bonjour, Marie-Chantal.
Nous vous écoutons. Que vous inspire cet arrêt?
Oui, effectivement, l'arrêt de la Cour suprême de justice tant attendu est venu casser, n'est-ce pas, les rumeurs et polémiques sur sa crédibilité. Monsieur, madame, reste à savoir que va devenir la représentation nationale à l'hémicycle pour les circonscriptions électorales concernées. Deuxième préoccupation, je pense que Robert Kisangani a posé la même question. Pourquoi est-ce que la session extraordinaire du Parlement n'aurait pas dû attendre la décision finale de la Cour suprême de justice afin d'établir sur la validation de ses membres? Parce que là, il y a une sorte de contradiction entre l'Assemblée nationale qui les a validés lors de la première plénière et la Cour suprême qui vient à son tour invalider ses élus.
Heureusement que vous étiez déjà sur les antennes, donc vous avez suivi la réponse de notre invité, l'interprétation de la loi concernant cette question-là. Mais sinon, on voudrait avoir plus de précision. Vous faites allusion, s'il vous plaît, sinon, vous faites allusion aux circonscriptions électorales où on a demandé de réorganiser les élections. C'est dans votre première préoccupation. Sinon,
oui, oui, madame.
Vous étiez en train de vous poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui va advenir dans cette circonscription électorale où on a, de manière partielle ou totale, demandé d'annuler les résultats pour réorganiser les élections. C'était ça votre première préoccupation?
C'était sa première préoccupation. Et aussi, j'avais rapidement la troisième préoccupation.
Allez-y rapidement.
Parce que j'ai suivi parmi les 32 députés invalidés, la Cour suprême, parce que je me suis trompé, a cité les noms d'un certain Royumu Munda. Alors je voulais savoir s'il s'agit bien de celui qui préside la CENI ou c'est tout simplement son nom.
Bon, ça c'est rassuré, ce n'est pas le pasteur Royumu Munda, mais c'est une autre personne qui porte le nom de Royumu Munda, et certaines personnes penseraient même qu'il y ait des liens familiaux entre les deux. Il faudrait tout néanmoins vérifier. Donc, il ne s'agit pas du pasteur Royumu Munda qui est à la tête de la CENI. Merci beaucoup, Finan, de Kindu, de votre intervention. Ernest, s'il vous plaît, Ernest, vous êtes à Matadi, nous vous écoutons.
Merci, maman journaliste, maman Chantal, pour cette opportunité que vous nous accordez. Nous pensons que la Cour suprême de justice a fait son travail en bien même en retard. Mais nous regrettons une chose, c'est que la Cour devait déjà se faire une idée dès qu'on avait terminé, dès qu'on avait fixé les listes sur les candidats retenus. Il va se dire qu'il y aura un problème face à ce nombre important de candidats aux élections législatives. Mmh. Et ce qui est arrivé, la Cour n'était pas vraiment prête en fonction de ce nombre-là, lorsqu'il y a eu des mécontentements, c'est qu'on disait qu'il y a eu des ratés à gauche, à droite, la Cour n'a pas aussi pris le temps voulu pour mener peut-être des enquêtes à la base. Parce que lorsqu'on a envoyé le PV, le bureau de vote, dans le paquet de la Cour suprême, nous avons tous appris qu'il y avait des paquets qui étaient jetés en cours de route, qui étaient tombés, soit étaient dérangés par la pluie. Donc, ça fait qu'il y a eu déjà quelque chose de mal parti. Parce que les casseroles tiennent, la Cour s'est intéressée à certains coins, mais je réalise qu'il y a des ratés, ça partit par là, parce que il y a des coins parmi les gens invalidés, comme ils n'ont pas ou encore projeté appel, ça se limite là-bas, ce sont des frustrations. Donc prochainement, que la Cour prenne le temps de bien suivre la situation dès le départ jusqu'à la fin, pour donner aussi le temps aux députés élus d'avoir le temps de s'installer et de commencer le travail.
Merci, Ernest. Donc, vous avez l'impression, vous avez l'impression que la Cour n'a pas traité certains dossiers dans le fond et vous avez l'impression qu'il n'avait pas tous les PV. Mais, bien sûr, Ernest, c'est l'impression que vous avez eue. Je vous demanderai encore une fois de suivre la suite de cette émission avec notre invité, parce que vous dites qu'il n'y a pas recours. Effectivement, sur le plan national, il n'y a pas recours. Mais les députés qui se sentent lésés aussi, ils ont aussi la possibilité d'interjecter sur le plan international. Mais le professeur pourra nous donner davantage d'informations là-dessus, Ernest de Matadi. Nous vous remercions de votre intervention au cours de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Professeur Jean-Paul Gaspard Ngunda, voilà encore une deuxième série d'auditeurs, la vie de Ernest, qui effectivement pense qu'il ne peut plus, l'arrêt de la Cour n'est pas susceptible d'aucun recours au niveau national, au niveau international. Nous avons connu cela en 2006, il y a eu un député qui s'est senti lésé, il n'a pas trouvé gain de cause au niveau de la Cour suprême de justice, il avait même interjecté ce qu'on appelle au niveau d'une Cour internationale. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications à notre auditeur concernant ce recours sur le plan international?
Bon, je l'ai dit, je crois qu'il faut marquer cette règle-là. Mm-hmm. Les arrêts de la Cour suprême de justice au niveau national ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais la RDC, dans ce pays, fait partie d'un certain nombre d'organisations internationales, tant au niveau africain qu'au niveau mondial. Et dans ces organisations internationales, il y a aussi des juridictions internationales. Nous sommes partis, par exemple, au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mm-hmm. Et en tant que tel, le comité des droits de l'homme des Nations Unies est tout à fait compétent pour examiner la situation des droits de l'homme qui se passe dans notre pays. Nous sommes partis au niveau africain de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et même de sa commission, qui s'occupe précisément du respect des droits de l'homme dans notre espace régional. Donc, en tant que tel, si un citoyen quelconque s'estime lésé par une décision de n'importe quelle juridiction, fût-elle la juridiction suprême du pays, la personne, sur la base de la violation des droits fondamentaux consacrés par les instruments régionaux ou internationaux des droits de l'homme, peut saisir ces juridictions-là, comme par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou le Comité international des droits de l'homme. Alors, la personne alignera ses arguments en se fondant sur les instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, et ces mécanismes-là vont examiner l'ensemble des décisions prises par l'ensemble des autorités de la République, y compris les juridictions. Et, en l'occurrence, la règle fondamentale qui est applicable au niveau international, c'est que on demande à la personne concernée d'utiliser toutes les voies de recours au niveau interne. Or, la Cour suprême de justice, c'est le niveau élevé où l'on puisse introduire un recours. Ce qui veut dire que sur la base de la règle de la Cour suprême de justice, les citoyens qui s'estiment être lésés dans leurs droits, en l'occurrence le droit à l'électorat, c'est un droit fondamental, qui est consacré aussi bien par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces personnes donc peuvent donc valablement saisir ces juridictions pour pouvoir faire respecter leurs droits. Ceci, je crois que ce n'est pas ce sens de nous, ce n'est pas encore dans nos mentalités. On croit que quand les autorités nationales ont statué, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, nous faisons partie de la communauté internationale, nous faisons partie des organisations régionales. Dans le cas de ces organisations-là, des personnes peuvent tout à fait affaire l'État quand elles se sentent lésées pour pouvoir voir l'État condamné. Et nous avons déjà connu des cas de jurisprudence. Hein, il faut savoir que le code parlementaire d'illustre mémoire, hein, qui avait été invalidé à la suite de tentatives de création d'un parti politique pendant la Seconde République, ce code parlementaire avait saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et il y a eu tout à fait des décisions qui ont été rendues en la matière. Et pas plus tard qu'il y a 5 ans, je crois, en 2006, les députés qui ont été invalidés ont saisi à plusieurs organisations internationales, que ce soit l'Union interparlementaire, ou même, je crois, la Commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et même si on ne les a pas rétablis dans leurs droits, parce que les juridictions internationales ne viendront pas donner injonction à la République démocratique du Congo de la reprendre comme député, mais ces juridictions peuvent décider d'un certain nombre de décisions, par exemple des mesures de compensation, ou ceci ou cela. Donc, de ce point de vue-là, la République engage sa responsabilité internationale du fait du fonctionnement de son système judiciaire et politique. Ça, c'est tout à fait possible.
C'est possible. Et néanmoins, nous savons que ce genre de l'arrêt, si on peut appeler ainsi, mais la décision d'une cour internationale, l'exécution, en fait, se base sur la bonne foi des États. Donc, professeur, nous allons écouter encore Freddy de Kinshasa et Benjamin aussi qui se trouve à Kinshasa. Nous allons lire quelques messages de nos auditeurs qui nous ont écrit. Freddy, bonjour.
Maman Marie Chantal Lomba, bonjour à notre invité.
Je suis
Freddy de Kinshasa.
Vous avez la parole, Freddy.
Ouais, nous savons que nous ignorons que la constitution de notre pays confère l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais comme le professeur venait de bien nous expliquer la situation, nous savons que la Cour devrait nécessairement rechercher le preuve au lieu de dire que il fallait nécessairement que les gens qui venaient déposer leur recours puissent venir avec le preuve. Comme le professeur l'a dit, nous sommes en matière de contentieux électoraux et non en matière pénale ou civile. Nous savons très bien que la charge de la preuve incombe à l'accusateur. Mais par rapport à ça, nous savons que la Cour a quand même fait un bon pas par rapport à ce qu'il a fait comme décision qu'il a prise aujourd'hui. Nous savons que la Cour devrait aller trop loin dans le sens que ce n'est pas seulement les 32 députés qui devraient être invalidés, parce que de vous à moi, nous sommes pas ignorés que ces élections ont été critiquées sur le plan national et international. C'est pour dire que la Cour des droits aussi statuer les élections présidentielles.
Donc vous avez aussi l'impression que la Cour n'est pas totalement indépendante, qu'elle n'a pas fait son travail dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Freddy?
Bien sûr que oui. La Cour a commencé quand même à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il a quand même validé 32 députés. Et ça fait honte à la CENI. Donc, l'autre connaissait un peu de mettre en pourcentage, c'est 10%.
Donc, ça réconforte la CENI, 10% seulement. Ça signifie que le travail était bien fait par la CENI.
Non, mais madame, l'autre, on invalide déjà les 32 députés. Ça veut dire que Moulunda et son bureau devaient se poser beaucoup de questions. Comme l'autre ami qui a posé des questions, pour dire que L'autre, il y a déjà l'invalidation de certains députés nationaux. Ça veut dire qu'il y avait quelque part, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui s'est caché. C'est pourquoi on devrait nécessairement aussi commencer à partir de cette histoire-là et voir s'il n'y a pas qu'il y ait au moins des invalidations, qu'il n'y a pas qu'il y ait au moins la tricherie par-ci, par-là.
Merci beaucoup, Freddy.
C'est nécessairement se faire par rapport à la Cour. Donc la Cour devrait aussi aller aussi trop loin et aller juste même à la présidence pour savoir et puis dire que non, nécessairement, La Cour est indépendante.
Merci, président de Kinshasa.
Que la Cour a fait quand même quelque chose de bon.
Merci, président de Kinshasa. C'est votre point de vue. Benjamin, vous êtes également à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Benjamin.
Oui, moi, j'aimerais aussi prendre l'allure de M. Fogli, mais je vais prendre un autre aspect de la chose. Je voulais d'abord remercier la Cour pour les arrêts. C'était un travail gigantesque avec le temps, regardant le nombre des contentieux. Mais en fait, la Cour a un peu failli quelque part. Si je dis cela, j'aimerais prendre un exemple. Je voulais parler de la circonscription électorale de Lodja. Si vous regardez parmi les quatre candidats contre les élus de Lodja, on a un élu invalidé au nom de M. Alexis Lounge. Faisons les calculs. À ma propre possession, je vois ici le premier avec 37 000 voix, le deuxième, c'est Alexis Lounge qui vient le deuxième, avait 17 000 voix, le troisième, avait 12 000 voix, et le quatrième avait 10 000 voix. À la forte surprise, nous voyons la Cour qui invalide la personne qui avait 17 000 voix, et laisse les gens qui avaient 12 000 et 10 000 voix. Et la Cour ne s'est pas limitée là-bas. La Cour est partie prendre quelqu'un qui avait 1000 voix et la personne qui est validée par la Cour n'a pas introduit de recours. Il n'avait que 1050 voix. Mais dans la circonscription électorale de Lodja, nous avons les gens qui ont obtenu 8000 voix, 6000 voix, 5000 voix.
Benjamin,
la Cour n'a pas tenu compte de ce genre.
Benjamin, n'oublions pas que lorsqu'il y a les élections législatives, il y a cette question de proportionnel, donc c'est tout un calcul qu'il faut faire. Et aussi, ce qui est assez important, c'est d'apporter toutes ces preuves au niveau de la Cour ou que la Cour puisse rechercher ces preuves dans les documents qu'elle a. Donc, au regard de tout cela, et bien sûr, nous avons soulevé cette question que si on se sent lésé par le verdict de la Cour, on peut faire recours à une institution internationale. Donc, il revient à ces personnes qui se sentent lésées de pouvoir aller au-delà de la Cour suprême de justice sur le plan international.
Madame, je pense que c'est une émission de la radio Capi, c'est pour faire comprendre aux gens-là qui disent que non, la Cour a bien travaillé. J'aimerais un peu faire comprendre aux gens qu'il y a eu des failles. Alors, j'évoquais ce point. Je disais, la personne qui a été validée par la Cour n'a pas introduit recours. Et si vous voyez, le jour de l'audience, la personne, le recours même introduit par le parti de la personne validée a été déclaré irrécevable parce que dans le chef du signataire, il n'était pas juridiquement reconnu. C'est tellement surprenant que la personne dont sa requête a été juridiquement reconnue irrécevable dans le fait que dans le chef du signataire, le parti d'abord juridiquement parlant, le parti n'a pas un statut, le parti n'existe pas. Et à la force de surprise, c'est la personne de ce parti qui même après deux personnes dans ce même parti venait d'être validée à la place de la personne qui est le deuxième dans le nombre des élus.
Oui, bon, mais jamais vous, en tout cas, au regard de tout ce que vous êtes en train de dire, vous savez quand même un pays, il y a quand même des lois qui réglementent ce pays, il y a des procédures. Donc c'est pour cela qu'il est toujours important d'avoir toutes ces preuves et tout ce que vous venez de déclarer, et si c'est possible de faire appel, parce qu'il n'y a que sur le plan juridictionnel que cela peut trouver une réponse. Donc merci beaucoup Benjamin de ce témoignage que vous venez de faire, et aussi de ce que vous ressentez au regard de cet arrêt de la Cour. Et bien sûr, nous vous remercions de votre intervention au cours de cette émission. Donc pour vous aussi, il y a cette question d'indépendance, le fait que vous avez l'impression que la Cour n'est pas allée dans le fond du dossier. C'est aussi l'impression, ce qui se dégage de votre intervention, Benjamin, de Kinshasa. Trésor, vous êtes à Teranga, bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Trésor, nous vous écoutons.
Oui, dans notre circonscription de Benda, l'arrêt de la Cour demande à la CENI de publier la liste provisoire des élus telle qu'elle est affichée au CENI. Mais cependant, le responsable de la CENI potentielle faisait savoir dimanche qu'il y a eu une liste consolidée autre que celle qui était affichée. Maintenant, ma question, c'est de savoir la CENI pour laquelle se référer à la liste du CENI ou celle consolidée. Et dans ce cas, ce sera le même droit ou le contraire.
Là, vraiment très bien. Là, si nous avions eu quelqu'un de la CENI, peut-être qu'il pourrait, sur le plan national, pourrait vous répondre à votre préoccupation. Mais nous sentons qu'il y a ces craintes de savoir est-ce que ce sera la liste que vous connaissez au niveau de Demba qui sera affichée ou bien une autre liste. Attendons peut-être que lorsqu'on va... De toute façon, la liste des députés qui ont été validés est déjà connue. On connaît les députés. Il suffit de voir est-ce que au niveau de la CENI, ce sont les mêmes noms qui se retrouvent. Donc, c'est au niveau de la CENI où vous pouvez trouver une solution, une réponse à votre préoccupation. Merci, Trésor de Kananga, de votre intervention à cette émission. Il y a Malcolm qui nous écrit ceci. D'une part, la Cour suprême n'a fait que confirmer les irrégularités et fraudes massives qui ont caractérisé les élections. D'autre part, elle montre et prouve qu'elle est objective et qu'elle veut lutter contre les antivaleurs. Voilà l'avis de Malcolm Mouindo. Maxime Soalé, mais où était-elle avant la validation des honorables députés? Cette affaire va-t-elle cautionner les politiciens congolais à retourner dans les milices? Donc c'est la crainte de Maxime Soalé. Il y a aussi Patrick qui nous écrit ceci. Si au niveau des législatives il y a eu des fraudes, la Cour suprême de justice a pris une bonne décision en invalidant les fraudeurs, mais nous oublions que ces élections étaient jumelées avec la présidentielle. Yann Yassinté nous écrit ceci. 5 mois pour un tel verdict, il estime que ce verdict n'est pas conforme à la justice. Que faisait la Cour tout ce temps? Voilà ce que pense Yann Yassinté. Et nous poursuivons cette émission. Vous voulez participer? Le 081-890-6315, l'adresse internet pa@radiocatholique.net, ou encore écrire, poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Professeur Jean-Gaspard Ngonda, vous avez suivi cette troisième série d'auditeurs. La plupart sont revenus, ils ont l'impression que la Cour n'était pas indépendante. En les écoutant, ils estiment que la Cour suprême est presque une appendice du pouvoir, si on peut dire ça comme ça, qu'elle soutient le régime en place, et au regard de cet arrêt qui a été prononcé, et effectivement, il y a eu plus de conflits entre les candidats d'une même famille politique que les candidats opposition aux majorités. Et quel est votre point de vue, professeur?
C'est Paul Gaspard Ngondan du Marie Chantal. Je crois qu'avant de répondre à ces questions, revenons d'abord à une question qu'un auditeur avait posée avant, à savoir à qui vont devenir les circonscriptions électorales des députés qui ont été invalidées. Je crois qu'on n'a pas répondu à cette question-là. La Cour suprême, dans les arrêts qu'elle a rendus, je peux comprendre que dans beaucoup des cas où elle a invalidé le mandat de certains députés, elle a par la suite validé le mandat d'autres candidats. Ce qui veut dire que dans cette circonscription électorale-là, il n'y a pas du tout vide laissé, ils sont déjà pourvus si la Cour a en même temps validé d'autres candidats. Par contre, là où elle a annulé les élections sans valider par la suite d'autres candidats, ben, la solution c'est qu'il y aura organisation des élections partielles dans cette circonscription électorale, tout comme également les élections qui vont être organisées dans les 18 sièges qui restent à pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, notre auditeur n'a pas à s'inquiéter. Dans certains cas, la Cour a déjà validé d'autres candidats. Dans d'autres, il y aura organisation des élections partielles. Alors, évidemment, nos auditeurs sont revenus sur le pouvoir d'initiative de la Cour suprême en matière de preuves. Et effectivement, on a reproché à la Cour, n'a pas avoir pu mener des enquêtes à elle-même et fournir les preuves, alors même que, comme je l'ai déjà signalé, la Cour reçoit les plaintes électorales de la part de la Cour suprême de justice. Je voudrais ajouter que la loi électorale, je crois que c'est l'article 64 ou 74, reconnaît à la Cour suprême de justice le pouvoir de mener des investigations, le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires pour pouvoir éclairer sa réunion. Donc la Cour n'a pas simplement à attendre de façon passive que les référents puissent lui apporter des preuves. Non, elle a un rôle actif
Parce que, comme je le dis encore, je le répète, nous sommes en matière électorale un contentieux de droit public. Ce n'est pas un contentieux de droit privé où l'instance est entre les mains des partis et que donc les partis doivent apporter les preuves à la Cour. Ni même en matière pénale où, comme on le dit, la charge de la preuve incombe à la privée. Cet adage n'est valable qu'en droit pénal. Il n'est pas valable dans toutes les matières. Ici, on est en matière électorale. Comme l'article 74 quater le dit, la Cour a le pouvoir d'ordonner toute forme de mesures d'instruction nécessaires pour écouter sa réunion. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que la Cour aura suffisamment du temps, dans les 2 mois qu'ils sont impartis, de pouvoir mener toutes les investigations? Ça, j'en conviens, il y a un obstacle. Mais la plupart des juridictions constitutionnelles à travers le monde fonctionnent dans des délais tout à fait corsés. Mais qu'est-ce que font ces juridictions constitutionnelles? Ces juridictions constitutionnelles en matière électorale, c'est le cas par exemple du Conseil constitutionnel français, s'organisent à l'avance, c'est-à-dire au moment où se déroulent les élections, elles envoient elles-mêmes leurs propres délégués qui vont constater le déroulement des élections, qui vont faire des rapports, qui vont même rédiger des PV à l'intention de la juridiction constitutionnelle. Au moment où la juridiction constitutionnelle va recevoir des recours, elle ne va plus mener d'autres investigations. Elle aura eu non seulement les prix électoraux de la Commission électorale nationale indépendante, mais également les rapports de ses propres délégués. Et il va les exploiter pour pouvoir avoir des preuves d'irrégularité dans le cadre de ce contentieux. Donc, la Cour n'a pas à avoir un rôle passif. La Cour doit se mobiliser dès le moment où le processus électoral s'enclenche. Et elle envoie ses propres délégués pour constater si, effectivement, dans la pratique, on respecte la loi. Comme ça, au moment du verdict, elle n'a plus à perdre de temps, ni à demander aux partis pour fournir elles-mêmes des preuves. Donc, sur cette question-là, notre juridiction suprême doit évoluer. Je comprends, parce que c'est une matière nouvelle. La plupart des juges qui siègent à la Cour suprême de justice ont passé l'essentiel de leur carrière à traiter des questions de droit judiciaire pur, des droits pénals, des droits civils, des droits commerciaux. Peu ont traité des questions de droit administratif. La majorité n'a peut-être pas encore, en tout cas, traité des questions de contentieux électoraux, si ce n'est à partir de 2006. Donc, là aussi, il faut être un peu plus indulgent vis-à-vis d'eux, mais il faut qu'eux-mêmes aussi se montrent réceptifs à la critique pour améliorer le travail tout le temps. Ils ne sont plus comme 2016, que la Cour invoque encore les mêmes arguments, on dit aux gens, ils sont fournis les preuves, alors même qu'elle peut déléguer ses propres agents pour pouvoir observer les élections et obtenir les PV de leur part. Donc, ça c'est une question capitale pour la crédibilité même des arrêts de la Cour suprême de justice. Alors, les autres questions que nos auditeurs ont posées, la Cour suprême n'a fait que confirmer les irrégularités, la Cour suprême manque d'indépendance. Le problème d'indépendance de la Cour suprême de justice n'est plus discuté suffisamment aujourd'hui. En tout cas, pour les connaisseurs, nous savons que celle-ci, c'est-à-dire cette indépendance, reste à l'agir. Mais, comme dans toutes les juridictions du monde, vous ne manquerez pas de voir dans tel ou tel arrêt une certaine connotation politique des juges. Ça, j'en conviens. D'ailleurs, quand vous lisez la plupart de ces arrêts, je ne les ai pas encore, mais quand j'ai eu les nouvelles, il semble que là où on a validé, on a invalidé certains députés, on a tout juste validé les députés de même tendance politique. Si bien qu'aujourd'hui, les politiques ne sont pas fondamentalement modifiées à l'Assemblée nationale. Donc, derrière un arrêt, il peut y avoir également des arrières-pensées politiques, mais je n'aimerais pas me lancer dans ce débat-là parce que il est très difficile à le conduire.
Il y a aussi un auditeur qui nous a écrit, qui estime, il est anonyme, il dit, est-ce que le député qui se sent lésé peut faire prévaloir ce qu'il a appelé prise à partie? Qu'est-ce que cela signifie?
Ah, la prise à partie, c'est une procédure disciplinaire qui est organisée dans notre système judiciaire, qui consiste en quelque sorte à porter plainte contre un membre de la composition de la Cour, qu'on accuse de partial ou de tel ou tel élément qui pourrait menacer son indépendance ou son impartialité.
Mais bon, au niveau de la Cour suprême de justice, ça, on sait très bien que cette prise à partie n'existait pas. On peut peut-être demander que le magistrat, le juge, se dépense lui-même. On peut le refuser, c'est-à-dire on peut refuser qu'il siège dans son affaire, mais encore une fois, il appartient à la Cour suprême elle-même, donc au juge lui-même en conscience de se décider, parce qu'au-dessus des juges de la Cour suprême de justice, sauf peut-être le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas d'autorité supérieure.
Oui. Professeur, restez avec nous. Il y a déjà Dodi qui se trouve à Kamina qui va intervenir et Bavon de Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Dodi.
Oui, bonjour madame.
Nous vous écoutons Dodi. Que vous inspire cet arrêt de la Cour?
Ben, en fait, l'arrêt de la Cour suprême de justice, la Cour suprême de justice a fait son travail. Mais on ne peut pas le dire encore pour le moment, parce que la Cour suprême a invalidé certains candidats députés au détriment des autres. Mais moi, je crois que jusque-là, en République démocratique du Congo, il y a une confusion de la justice. La République démocratique du Congo veut se comparer à d'autres États, là où il y a la vraie justice, mais pendant qu'ici chez nous, la justice, ça n'existe pas. Moi, je crois que la Cour suprême, elle n'est pas vraiment au milieu du village, elle n'est pas vraiment cette équipe qui est au milieu du village. La Cour suprême est trop partielle. Et ma question serait aussi celle-ci, madame. Mmh. Est-ce que la Cour suprême, est-elle rassurée que tous les candidats qui vont siéger le nom à l'Assemblée nationale, sauf en ordre ou encore certains candidats à ne pas frauder pour accéder à leur chaise dans l'Assemblée nationale, madame. C'est un peu ça la question.
Mais si déjà elle a rendu son arrêt, ça signifie que la liste est définitive au niveau national.
C'est pourquoi j'ai dit que cette cour, elle n'est pas vraiment l'église au milieu du village, madame. Parce que quand vous voyez dans certaines circonscriptions, il y a des gens qui se plaignent, il y a des candidats, il y a des députés qu'on voit siéger à l'Assemblée nationale. Par contre, certaines personnes se plaignent aussi qui n'ont pas mérité leur place, madame.
Merci Dodi de Kamina. Bavon à Kisangani, bonjour. Bonjour Bavon. Bavon?
Oui, bonjour.
Oui, nous vous écoutons Bavon. Que vous inspire cet arrêt de la Cour?
Pour moi, je trouve que en un de ces jusque-là, il n'y a pas la séparation du pouvoir. Tant que le président de la République a la maîtrise de la justice congolaise, elle ne fonctionnera jamais indépendante. Pour moi, la décision de la Cour suprême de justice, d'abord, c'est une institution privée de Kabila, qu'on appelle l'IPK.
C'est la pression c'est la pression que vous avez que la Cour n'est pas indépendante, Baron.
La Cour n'est pas du tout indépendante. Il suffit de voir comment ces députés ont maltraité les élections au niveau des provinces. Ils doivent garantir au chef de l'État, vous allez gagner au président, il faut nous laisser aussi l'État de l'exécutif. Et pour cela, ils doivent utiliser des forces pour qu'ils réussissent tous à législatif et même au président. Qui va parler? Ce que je regrette, la communauté internationale nous laisse un pouvoir et qu'on n'a pas du tout confiance avec l'État. Ceux-là qui ont gagné les élections, on les a détruits au pouvoir. Alors, on ne sait pas si on peut retourner encore par la force pour prendre notre pouvoir et on ne sait pas comment faire. La communauté internationale vraiment nous a abandonnés.
Merci Bavon de votre intervention. Vous, si vous revenez sur cette indépendance du pouvoir judiciaire, vous posez des questions sur l'indépendance de la Cour suprême de justice. Nous avons ce message de Jacob Sabouni qui nous écrit ceci. Une vraie justice doit régner dans ce pays. Par cet arrêt, je ne crois pas qu'il existe une justice distributive. Elie Bariane, la Cour suprême de justice a confirmé son indépendance au régime en place car avec toutes ces irrégularités et fraudes massives qu'a connues l'élection, je pense que 32, c'est pas suffisant. Il y aurait plus que ça. Willy Nyonsaba,
ces fraudeurs l'avaient fait de connivence avec des agents de la CENI, pourquoi ces agents de la CENI ne sont pas également poursuivis? Jonathan Matabisi Kamale, si la Cour agit dans les délais raisonnables et légaux, sachez qu'elle est en plein droit de valider ou d'invalider qui que ce soit, car cela fait partie de ses attributions. Que les invalidés fassent aussi recours s'ils ont des preuves. Il y a également Dodi Moulembe, la Cour suprême de justice se contredit. Comment les législatives peuvent passer à un examen en laissant la prison? C'est le point de vue de Dodi Moulembe. Les paroles aux auditeurs aujourd'hui est centrée sur cet arrêt de la Cour suprême de justice sur les contentieux électoraux. Environ 32 députés nationaux issus des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante du 26 janvier 2010 ont été validés et 32 ont été validés. 18 députés ont été suspendus, donc il faudrait réorganiser dans certaines circonscriptions électorales ces élections, notamment à Massissi dans la province du Nord Kivu, Bessalé à l'Équateur, Kiri dans le Bandundu, Lomela et Kolé au Kasaï oriental. Et au total, il y a eu plus de 450 contentieux et ces conflits électoraux ont été ainsi examinés par la Cour suprême de justice. La question qui a lancé notre émission, que vous inspire cet arrêt de la Cour? Nous avons invité pour vous le professeur Jean-Paul Gaspard Gonda Nkoy, qui est constitutionnaliste. Professeur, vous êtes avec nous en ligne. Nous allons écouter les deux derniers auditeurs et puis vous redonner la parole pour une conclusion à cette émission. Jean-Jacques, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, en français.
Oui, nous vous écoutons.
Oh oui, j'aurais quand même une petite préoccupation et je pense que le professeur est là pour résoudre mon petit problème.
Mm-hmm.
Nous venons à peine de fêter la journée internationale du travail et pour les 32 députés invalidés. Hein, parce que le problème ici, c'est situé au niveau de la Cour suprême de justice qui n'a pas respecté le cycle électoral. Est-ce que les députés invalidés seront dédommagés ou il y a une mesure de compensation envisagée par la Cour afin de résoudre ce problème?
Oui, donc vous posez une question, si être député, est-ce que c'est une fonction politique? Est-ce que c'est un métier être député national pour savoir si le fait qu'ils aient perdu leur mandat, est-ce qu'ils sont au chômage? C'est un peu aussi ça, votre préoccupation.
Oui, parce qu'il y a certains d'entre eux qui occupaient certains postes déjà, ils ont dû démissionner pour aller à cette députation nationale. Mm-hmm. Maintenant que leur mandat était invalidé, est-ce que...
Merci Jean-Jacques de votre intervention. Jadou, vous êtes à Loubero, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour tous les auditeurs de la radio Castille. Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon anniversaire à l'équipe des paroles aux auditeurs parce que je fais aussi 3 ans d'audition de cette grande équipe.
Merci Jadou.
Je voulais vous poser une petite question, à savoir où est parti Jacques-Claude Chandra. Bon, comme nous parlons de cette question électorale, notre impression, c'est une impression inquiétude. Vous savez, l'arrêt de la Cour suprême de justice n'a continué que de jeter de la boue sur la maturité électorale du peuple congolais. Vous savez, 32 députés, c'est trop. Jamais dans le monde, après une élection qui se soit passée, qu'on arrive à évaluer 32 députés, ça fait quand même honte. Alors, en fait, notre lecture ici chez nous, à l'Est, c'est une lecture qui semble être négative par rapport à cet arrêt, parce que il y a eu des irrégularités dans les chefs de l'élection de quelques députés ici.
Vraiment, Jadot, vous n'avez pas suffisamment de temps. Nous espérons pouvoir vous interrompre parce que là, nous cheminons vers la fin de cette émission. Le temps de redonner la parole à notre invité et conclure également cette émission. Nous excusons Jadot de Loubero, professeur Paul Gaspard Gondako, vraiment aujourd'hui au cours de l'émission, j'ai vraiment massacré votre nom, je m'en excuse. Donc, professeur Paul Gaspard Gondako, vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs. Est-ce que vous pouvez réagir, répondre à la préoccupation de Jean-Jacques de Lubumbashi? Professeur?
Nous avons perdu notre invité. Professeur, vous êtes avec nous? Nous avons perdu notre invité qui devait conclure cette émission. Comment Jadot, si on l'avait su plus tôt, vous serez resté en ligne pour poser votre question, mais le temps, on court derrière le temps. Vous savez, la radio, c'est le temps. C'est assez souvent difficile de pouvoir le gérer, avoir une conclusion et terminer en beauté cette émission. Le temps que Titi Poutre-Pierre-Lamigi puisse recontacter notre invité. D'ailleurs, on me fait signe qu'il est de nouveau en ligne. Professeur Paul Gaspard Ngondakoy, j'espère que vous avez suivi les deux derniers intervenants, Jean-Jacques de Lumbashi, qui se posait des questions. Les députés invalidés, ils ont perdu leur mandat, ils ne vont pas siéger concernant leur travail. Ils se posaient des questions. Est-ce qu'il y a des indemnités par rapport à cela? Donc, il voudrait avoir aussi plus de précision, être député national. Est-ce que c'est un métier ou bien, parce qu'il y a d'autres qui ont dû démissionner pour devenir député national. Quelle est votre réponse?
Alors, la question est délicate. Depuis ma banque, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas un droit personnel à être député qui puisse donner lieu à compensation ou à indemnité. Alors, le mandat des députés, c'est un mandat national, c'est un mandat public. On est là, on représente la population. À partir du moment où une juridiction invalide un mandat, il n'y a pas en principe de dommages et intérêts à titre personnel à réclamer pour cela. Mais le problème qui se pose ici, c'est que sur le plan humain, c'est quand même difficile parce que bon, il y en a qui ont renoncé déjà à certaines fonctions qu'ils exerçaient avant. Maintenant, on les invalide. Bon, je peux dire que c'est le risque du métier. Mais la République n'a pas à payer des dommages et intérêts parce qu'elle a sanctionné des irrégularités qui ont été commises à l'occasion de l'élection, législative. Non.
Oui, pour conclure cette émission en écoutant nos auditeurs, ils sont revenus sur l'impression qu'ils ont que la Cour suprême n'est pas indépendante, la confiance en la Cour suprême qui devrait renaître, parce que sans justice, un pays ne peut pas évoluer correctement, même la crédibilité de cette instance. Nous savons que même dans la plupart des pays, c'est pas seulement l'apanage de la RDC, il y a toujours cette suspicion où on fustige des fois les arrêts de la Cour, et cela même a existé pendant plusieurs siècles, même à l'époque de La Fontaine, qui avait dans ses fables décrit ces situations concernant, bien sûr, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc c'est une situation qu'a vécu d'autres pays et qui peut-être s'en sont sortis. En conclusion, que dire à nos auditeurs concernant cette question de crédibilité, d'indépendance et de confiance en l'organe judiciaire?
La question de l'indépendance des juges suprêmes, madame, c'est une question qui est très discutée, en même temps les passionnés. Quels que soient les mécanismes, quels que soient les garde-fous qu'on peut mettre en place, il y aura toujours à rédiger. J'ai toujours dit que la meilleure garantie de l'indépendance des juges, c'est le juge lui-même. C'est sa conscience, c'est sa psychologie, c'est sa capacité, son courage dans l'examen des contentieux qui lui sont soumis. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai toujours dit que quand on est nommé à ce genre de fonction, que ce soit à la Cour suprême ou demain à la Cour constitutionnelle, on a à exercer ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. On est obligé d'être ingrat vis-à-vis de ses amis politiques, vis-à-vis de ceux qui vous ont nommé, et vis-à-vis même des membres de sa famille. Donc, si on ne parvient pas sur le plan psychologique, sur le plan personnel, à intérioriser cette exigence, quelles que puissent être les garanties qu'on va mettre en place, il y aura toujours à réduire sous l'indépendance des juges. Mmh. Et en ce qui concerne notre Cour suprême de justice, je crois qu'il y a tant de littérature en la matière, on comprend parfaitement le désarroi de la population, on comprend leurs critiques, mais pour que ça change, il faut absolument une sorte de métanoïa personnelle, pour utiliser ce terme de divinité en mine, une sorte de métanoïa, de conversion personnelle des magistrats, et surtout les capacités à résister aux pressions. Mm-hmm. Cela dit, les arrêts qui ont été rendus dans le cadre de ces contentieux ne sont qu'un début, 32 députés invalidés, malgré quelle que soit la pertinence des arguments qui ont été avancés ou non. Ça reste quand même marginal, mais il faut encourager la Cour
mais il faut surtout en appeler à la mise en place de la Cour constitutionnelle, dont la loi a déjà été adoptée par les deux chambres et qui n'est pas encore promulguée aujourd'hui par le président de la République. Et peut-être demain, espérer que ceux qui vont faire partie de cette Cour puissent être un peu plus différents que les juges actuels de la Cour suprême de justice, à la fois au niveau de leurs compétences techniques, au niveau de leur moralité, et au niveau, comme on vient de le dire, de leur indépendance.
Notamment qu'ils auront déjà vécu, qu'ils auront déjà l'expérience de 2006 et de 2011.
Pardon ?
Notamment le fait qu'ils aient déjà eu cette expérience en 2006 des contentieux électoraux et de 2011.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est déjà un début que nous puissions avoir un certain nombre d'arrêts déjà, mais il faut espérer que la juridiction constitutionnelle qui va être mise en place va essayer de parfaire cette jurisprudence, parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt de considérer que ces arrêts sont véritablement jurisprudence, parce que certains se contredisent, d'autres sont pris manifestement en marge de la loi et de la Constitution, mais bon. Mais ce n'est qu'un début, on verra si demain le juge constitutionnel va être en mesure de parfaire ses arrêts.
Merci beaucoup, professeur Paul Gaspard Gonda Binda. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être avec nous tout au long de cette émission. Nous remercions également tous les auditeurs qui sont intervenus et même ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain, ce sera le 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée instaurée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et en marge de cette journée, une question qui va lancer l'émission de demain. Que pensez-vous de la liberté de la presse en RDC? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Je remercie toute l'équipe de Parole aux auditeurs qui a réalisé cette émission, Titine Poutou, Thierry Lamégi et Sylvain Matindou. Entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes. À présent, je vous invite à suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies animée par le porte-parole de la mission onusienne en RDC, M. Mumbai Mamoudou.
Merci Marie-Chantal Lumba. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent en direct ou qui nous suivent sur www.radiookapi.net. La conférence de presse de ce jour sera animée par le lieutenant-colonel Basse pour les informations sécuritaires, pour le pilier développement de l'équipe pays des Nations Unies, Florence Marshall, pour le pilier humanitaire de l'équipe pays des Nations Unies, Yvon Edounou et moi-même Magnoj Mounoubaï. En ce qui concerne les activités de la composante MONUSCO, nous avons une seule. Nous avons des informations seulement de l'unité droits de l'homme avec deux.